Stendhal, Père Philippe, 11 mai 83, Rimont.
Dans ce qu'il a d'intérieur et dans ce qu'il a d'extérieur. Alors nous verrons seulement l'acte intérieur de la foi. Puis après avoir vu l'objet et l'acte intérieur de la foi, nous nous poserons la question de savoir quelles sont les philosophies que la foi peut assumer. Grave question, question importante. Sous le premier point, 10 questions se posent. Croire, c'est l'acte intérieur. Croire, c'est l'acte intérieur de la foi, c'est quoi? Bonne traduction. Quid sit credere? Quod est actus interior fili? Qu'est-ce que c'est que croire? Le quid. C'est intéressant qu'il pose le quid, parce que c'est rare qu'en théologie on se pose le quid. Cela se dit de combien de manières? Quot, alors vous voyez, quid, quot, hein, ceux qui aiment le latin. Quot modis dicatur, combien de modes, combien de manières? Est-il nécessaire pour le salut de croire quelque chose qui dépasse sa raison naturelle? Alors ça c'est un article très important. De croire quelque chose qui dépasse. Vous voyez, c'est la nécessité de l'acte de foi. Est-il nécessaire de croire les choses auxquelles peut parvenir la raison naturelle? Est-il nécessaire pour le salut de croire des choses explicitement? Tous ceux qui sont tenus d'une manière égale, tous sont-ils tenus d'une manière égale de croire explicitement? Est-il toujours nécessaire pour le salut d'avoir une foi explicite au sujet du Christ? Est-il de nécessité pour le salut de croire explicitement la Trinité? L'acte de foi est-il méritoire? La loi, la raison humaine diminue-t-elle le mérite de la foi? Toute une série de questions très intéressantes, dont on, facile de comprendre l'organisation. C'est le point de vue de qu'est-ce que c'est que l'acte, les modalités, l'extension, sa nécessité, et puis après vous précisez ce que représentent les propriétés de cet acte de foi et jusqu'où l'explicitation de tel ou tel dogme est-il nécessaire. Alors, cogiter et adhérer, est-ce l'acte de croire? Alors, il semble, première objection, on le dit, mais il ne semble pas une cogitation. C'est une certaine inquisition, cogitatio importat quidem inquisitionnel, donc disons une certaine recherche. Cogiter, c'est pour ainsi dire s'agiter. Dicere cogitare quasi simul agitare. Tout à fait du bon latin. C'est s'agiter, cogiter. Mais saint Damascène dit que la foi est un assentiment qui ne discute plus. L'acte de foi n'est donc pas du tout l'acte de cogiter. Ce sont des questions très modernes, ces questions-là. Vous savez, dans quel sens est-il nécessaire de douter? Pour bien croire, mettez-vous dans le doute. Pour essayer de mieux croire, essayer d'agiter un tout petit peu, pour voir un tout petit peu toutes les objections, pour que vous soyez plus sûr de bien croire. Avant de croire, il faut passer par une période d'obscurité et de doute. Certains diront ça. Il faut presque aller jusqu'à l'athéisme. Il y a quelqu'un qui disait ça, que pour vraiment croire, il faut être passé par l'athéisme. Donc, mettez-vous dans l'athéisme, et puis après, vous croirez. Mais si vous n'êtes pas passé par l'athéisme, non, votre foi n'est pas parfaite. Il manque quelque chose. Il manque la situation de celui qui est athée. Alors là, vous voyez, on montre la différence entre cogitare et credere. Et alors ça, c'est saint Augustin qui est en cause, là. Parce que saint Augustin parle du cogitare pour la foi. Deuxième objection, nous dirons plus loin que la foi réside dans la raison. Mais l'acte de cogiter est l'acte de la puissance cogitative, qui, comme nous l'avons dit dans la première partie, appartient à la sensibilité. La cogitation n'a donc rien de commun avec la foi. Puis troisièmement, croire est sans aucun doute un acte de l'intelligence, puisqu'il a pour objet le vrai. Or, donner son assentiment n'est pas, semble-t-il, un acte d'intelligence, mais c'est un acte de la volonté. Tout comme celui de donner son consentement, comme nous l'avons étudié plus haut. Croire n'est donc pas un acte d'intelligence. Et alors ça, c'est l'assentiment qui relève beaucoup plus du jugement. Alors ça, c'est très important, ça a un très grand rôle. Dans la mesure où, par exemple, Descartes dira que le jugement est d'ordre volontaire, c'est à cause de l'assentiment. Et ça va avec l'imperium, un acte volontaire. Mais se commander, assentir, l'engagement. Est-ce que s'engager est-il un acte de volonté ou un acte d'intelligence? Vous allez me dire, ça dépend pour qui. Et c'est peut-être vrai. S'engager, c'est quelquefois un acte d'intelligence et quelquefois c'est un acte pas tout à fait d'intelligence, c'est un acte uniquement volontaire. Autrement dit, on essaie de comprendre qu'est-ce que représente l'acte de croire. C'est saint Augustin qui définit ainsi l'acte de croire. Donc il le définit comme une cogitatio. Cogiter peut se prendre en trois sens. D'abord, d'une façon tout à fait générale, dans le sens de n'importe quelle application actuelle de la pensée. Comme saint Augustin dit, nous possédons cette intelligence par laquelle nous pénétrons les choses dans la pensée que nous agitons. Habemus intelligentiam quam intelligimus cogitantes. Mais d'une autre façon, donc cogiter veut dire penser, je cogite. Et on dira même encore en français comme ça, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Je cogite. Ça veut dire je pense. Je cogite, c'est cogitare, penser, de façon tout à fait générale. Mais d'une autre façon, on appelle plus profondément cogiter l'application d'esprit qui s'applique d'une certaine recherche avant qu'on soit parvenu à une parfaite intelligence des choses par la certitude que procure la vision. On opposera la cogitatio à la vision, en disant la cogitatio implique une recherche. Je suis en recherche. Ça fait bien. Donc, je suis en recherche. Acceptez que nous soyons en recherche. Il faut toujours dire ça. Acceptez que nous soyons en recherche. Nous n'avons pas encore trop décidé. Accepter le flou parce qu'on est en recherche. Vous voyez? Et c'est ça cogiter, accepter qu'on soit en recherche. C'est ce qui fait dire à saint Augustin que le Fils de Dieu est appelé non pas la simple cogitation ou pensée, mais le Verbe de Dieu. Car c'est seulement lorsque notre cogitation arrive au savoir et qu'à partir de là, elle est formée, qu'elle constitue vraiment notre verbe. Et c'est pourquoi le verbe de Dieu doit s'entendre sans la cogitation, n'ayant rien en lui qui soit encore en formation et puisse être informe. Là, on entre dans quelque chose de très délicat, c'est intéressant, c'est la formation du verbe. C'est ce qui fait dire à saint Augustin, c'est dans son traité sur la Trinité, ça, oui, le Fils de Dieu est appelé non pas la simple cogitation ou pensée, mais le Verbe de Dieu. Donc l'opposition entre la cogitation et le verbum. Car c'est seulement lorsque notre cogitation arrive au savoir et qu'à partir de là, elle est formée, qu'elle constitue vraiment notre verbe. Et c'est pourquoi le verbe de Dieu doit s'entendre sans la cogitation, n'ayant rien en lui qui soit encore en formation et puisse être informe. Tout ce qui demande d'être formé est informe. Or le verbe exprime une pensée parfaite, une pensée plénière. Et c'est pour ça que je peux dire que la seconde personne de la Très Sainte Trinité est le Verbe, et je ne dirai jamais quelle est la cogitation du Père. Ainsi, d'après cela, on donne proprement le nom de cogitation au mouvement de l'esprit lorsqu'il délibère, n'étant pas encore arrivé à son point de perfection par la pleine vision de la vérité. Mais cette sorte de mouvement peut être soit d'un esprit qui délibère à propos d'idées générales, auquel cas c'est affaire d'intelligence, soit d'un esprit qui délibère à propos d'idées particulières, auquel cas c'est affaire de sensibilité. Voilà comment cogiter est pris d'une seconde façon pour l'acte de l'intelligence lorsqu'elle délibère d'une troisième façon pour l'acte de la faculté cogitative. Donc vous voyez, cogitare, pour saint Thomas, le propre de la cogitation, c'est simplement explication des mots. C'est intéressant parce que saint Thomas se trouve devant un contexte cogitare. Traduction cogiter, moi je veux bien. J'avais pensé à beaucoup d'autres choses, mais cogiter. Alors, cogitare, je crois que ces pensées, alors on voit très bien, ces pensées, comme dira saint Thomas, en premier lieu, en impliquant en premier lieu une application. Je m'applique, je pense, je m'applique. Avec une recherche. On n'a pas encore découvert la vision. C'est pour ça qu'on opposera cogitation à vision. Quand j'ai la vision, je ne cogite plus. J'ai la vision. Il n'y a plus de cogitare. Alors, saint Augustin, et ça je crois que c'est les deux aspects, vous voyez, de façon plus d'une autre façon, c'est le point de vue de la recherche. Donc, application et recherche. C'est l'un et l'autre. Ça peut être l'un ou l'autre. Et alors, quand c'est une recherche, ça s'oppose évidemment à la vision. Et puis troisièmement, au mouvement de l'esprit lorsqu'il délibère. Donc délibération, c'est encore une recherche. Une délibération. Mais une délibération qui est ou par rapport à l'intelligence. Et cette sorte de mouvement peut être soit d'un esprit qui délibère à propos d'idées générales, auquel cas cette affaire d'intelligence, soit d'esprit qui délibère à propos d'idées particulières. Donc par rapport aux idées générales, délibération de l'intelligence spéculative, délibération de la cogitative. Vous avez donc, si vous voulez, un deux, trois, quatre sens. Si je prends la division que donne saint Thomas. La cogitative en dernier, c'est leur sens. La délibération spéculative et font la recherche proprement dite. La délibération est une recherche. C'est pour ça que ces deux se tiennent très fort quand il s'agit ici. C'est la délibération recherche, surtout au niveau spéculatif. Au niveau spéculatif, c'est une recherche. D'après cela, si l'on prend l'acte de cogiter dans son acception commune, selon la première manière, alors en parlant de cogiter avec assentiment, on ne dit pas totalement ce qui fait l'acte de croire. Car dans ce sens, même celui qui considère les choses dont il a la science ou l'intelligence pense avec assentiment. En revanche, si l'on prend l'acte de cogiter dans le second sens, alors on y saisit toute la définition de cet acte précis qui consiste à croire. Parmi les actes de l'intelligence, il en est, en effet, qui ont une adhésion ferme. Sans cette espèce de cogitation, comme il arrive quand on considère les choses dont on a la science ou l'intelligence, une telle considération, effectivement, est désormais pleinement formée. À l'opposé, il est certains actes de l'intelligence qui ont certes la cogitation, mais l'ont informe et sans une ferme adhésion. Soit qu'elle ne penche d'aucun côté, comme il arrive à celui qui doute, soit qu'elle penche davantage d'un côté, mais sont tenues par quelques légers indices, comme il arrive à celui qui en a un soupçon. Soit qu'ils adhèrent à un parti, en craignant cependant que l'autre ne soit pas vrai, comme il arrive à qui se fait une opinion. Mais pour ce qui est de cet acte qui consiste à croire, il contient la ferme adhésion à une chose en quoi le croyant se rencontre avec qui a science et avec qui a l'intelligence. Et cependant, sa connaissance n'est pas dans l'état parfait que procure la vision, évidente, en quoi il se rencontre avec l'homme qui est dans le doute, dans le soupçon, dans l'opinion. De sorte que c'est bien le propre du croyant de cogiter tout en adhérant. Et c'est par là que l'acte de foi se dissimule. Et c'est par là que l'acte de foi se distingue de tous les actes de l'esprit qui sont dans le vrai ou dans le faux. Donc saint Thomas reprend là, vous voyez, la grande distinction qu'il a déjà faite à propos de ça, pour montrer toutes les différentes manières dont l'intelligence adhère au réel. Et au fond, c'est ça que saint Thomas nous donne ici, pour essayer de voir comment il reste à l'intérieur de l'intelligence une possibilité de doute, de recherche. Et au fond, c'est ça l'intérêt. Je ne dis pas que c'est un point de vue psychologique, hein, c'est pas ça. C'est d'essayer de comprendre jusqu'où l'adhésion de l'objet va-t-il capter complètement l'intelligence en déterminant complètement l'intelligence, ou laisser à l'intelligence une possibilité d'indétermination. C'est pour ça que saint Thomas fait ici. Alors on va faire un petit tableau pour que vous voyez mieux et que vous compreniez mieux ce que représente exactement cette recherche que donne saint Thomas ici. Donc, après avoir donné ce point de vue, simplement ça c'est le mot, hein, c'est la signification du mot. Bon, la signification du mot n'est pas encore de l'ordre philosophique ou idéologique. C'est simplement pour qu'on comprenne exactement ce qu'on appelle par cogitation. Donc, l'argument théologique commence uniquement d'après cela. Si l'on prend l'acte de cogiter dans son acceptation commune, selon la première manière, alors en parlant de cogiter avec assentiment, on ne dit pas totalement ce qui est l'acte de croire. Donc, je cogite et il y a un assentiment. Il y a une application, puisque c'est l'application. Il y a une application et il y a un assentiment. On ne dit pas totalement ce qui est l'acte de croire. Car dans ce sens, même celui qui considère les choses dont il a la science ou l'intelligence pense avec assentiment. Donc, c'est l'attitude de celui qui a la science. Il a l'application, c'est le mot cogitare, il a l'application et puis il adhère. C'est pas ça. Ça, saint Thomas laisse tomber. En revanche, si l'on prend l'acte de cogiter dans le second sens, le point de vue d'une délibération, du point de vue d'une recherche, si on le prend dans l'acte de cogiter dans le second sens, alors on y saisit toute la définition de cet acte précis qui consiste à croire. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est un assentiment avec une cogitation. C'est un assentiment avec une recherche. L'acte de foi implique en lui-même une recherche. Pourquoi ? Parce que l'intelligence, quand elle adhère, quand elle adhère au mystère, elle y adhère au mystère, non pas à cause de l'évidence du mystère. C'était à cause de l'évidence du mystère, il y avait une détermination parfaite de l'intelligence. Alors il y aurait assentiment, il y aurait cogitation dans le premier sens, application. Mais puisque de fait le mystère, on y adhère à cause de la volonté. C'est à cause de la volonté que j'y adhère. Donc le mystère demeure dans sa transcendance. Il me dépasse complètement. J'y adhère pleinement, je peux y adhérer pleinement, mais il demeure une recherche. Il demeure une cogitation. Et c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention. C'est qu'en ce sens, il peut y avoir une théologie, une recherche. Il y a une recherche à l'intérieur même de l'acte de foi. Donc, parmi les actes de l'intelligence, alors ici on va regarder le petit tableau qu'on a déjà donné du reste, la question précédente. Il en est, en effet, qui ont une adhésion ferme sans cette espèce de cogitation. Donc, premièrement, une adhésion ferme, sans recherche, tout simplement. Une adhésion ferme, sans recherche, comme il arrive quand on considère les choses dont on a la science ou l'intelligence. Une telle considération, effectivement, est désormais pleinement formée. L'intelligence est parfaitement déterminée. Et c'est pour ça que l'intelligence est parfaitement formée. Donc, il n'y a pas de place à la recherche. Alors qu'il s'arrive très rarement. Parce que ce que la science n'implique pas-elle toujours une recherche ? Mais c'est pour ça que c'est assez délicat, vous voyez ? Assez délicat. C'est, théoriquement, la science comme telle, il faut que je connaisse scientifiquement, je m'arrête. C'est ça que je veux dire simplement. C'est à l'intérieur de cette adhésion. À l'intérieur même de cette adhésion de la science, il y a une détermination parfaite. Mon intelligence est parfaitement déterminée par la démonstration scientifique. Quand il y a une démonstration scientifique. En métaphysique, vous comprenez bien que la science, il y a adhésion, il y a évidence. Mais comme c'est dans l'ordre analogique, il y a toujours une possibilité de recherche pour aller plus loin. À l'opposé, il est certains actes de l'intelligence qui ont certes la cogitation, mais on recherche pourtant la cogitation dans le sens, donc, qui ont certes la cogitation, mais l'ont informe et sans une forme, sans adhésion. Donc, sans adhésion. Parce que c'est toujours les deux, hein. Adhésion et recherche. Adhésion et cogitation. Soit qu'il ne penche d'un côté, comme il en arrive à celui qui doute. Donc il ne penche d'aucun côté, le doute. Donc science, doute. Ni l'un ni l'autre ne sont la foi. Et le doute, tout simplement, parce que c'est informe. L'intelligence n'est pas. L'intelligence reste informée. Vous comprenez bien, informée, hein, c'est équivoque. Donc, reste informée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas formée. L'intelligence n'est pas. Alors, dites indéterminée. C'est dans le langage français, on dirait indéterminée. Elle n'est pas déterminée. L'intelligence n'est pas déterminée par l'objet. Donc, elle reste indéterminée, informée. Indéterminé. soit qu'il ne penche d'aucun côté, comme il arrive pour le doute. Donc, dans aucun côté, le doute. Soit qu'il penche davantage d'un côté, ils sont tenus par quelques légers indices, comme il arrive à celui qui a un soupçon. Soit qu'il adhère à une partie en craignant cependant que l'autre soit vrai, comme il arrive à qui se fait une opinion. Trois positions. Mais pour ce qui est de l'acte qui consiste à croire, il contient la ferme adhésion à une chose, en quoi le croyant se rencontre avec qui a une science, donc troisième position, adhésion, donc quelque chose de commun avec le croyant, avec le savoir, je veux dire, une rencontre avec qui a une science et avec qui a une intelligence. Et cependant, sa connaissance n'est pas dans l'état parfait que procure la vision évidente, en quoi il se rencontre avec l'homme qui est dans le doute, dans le soupçon et dans l'opinion. Il demeure, cette adhésion demeure indéterminée, informe. C'est-à-dire l'intelligence n'est pas totalement déterminée. Il y a du flottement. En quoi il se rencontre, et là c'est la parenté avec le fait que l'intelligence n'est pas déterminée. Pas totalement déterminée. Et cependant, sa connaissance n'est pas dans l'état parfait que procure la vision évidente, en quoi il se rencontre avec l'homme qui est dans le doute, dans le soupçon et dans l'opinion. De sorte que c'est bien le propre du croyant de cogiter tout en adhérant. Et c'est par là que cet acte de croire se distingue de tous les actes de l'esprit qui sont dans le vrai ou dans le faux. Vous voyez donc que saint Thomas distingue ici cinq positions, si j'ose dire, cinq positions de l'intelligence. Ça, c'est la foi. Mais c'est toujours très curieux de voir ça. Hein? Comme ça, comme au fond, c'est difficile de préciser ce que c'est croire. On prend des positions plus faciles à comprendre. C'est une position hybride. C'est vrai, c'est une position hybride. Il y a à la fois adhésion et indétermination. Adhésion grâce à la volonté, indétermination à cause du mystère. Et ce qui fait que le croyant, vous voyez, a une adhésion, et c'est là où ce que dit Saint-Augustin passe juste, il y a adhésion et il y a cogitation. Alors voyons maintenant la réponse aux objections. Il n'y a pas à l'intérieur de la foi une recherche de la raison naturelle pour démontrer ce que l'on voit. Mais il y a cependant une recherche de ce qui peut amener l'homme à croire. Par exemple, que Dieu l'a dit et que c'est confirmé par des miracles. Vous voyez ? Donc saint Thomas souligne où porte exactement cette recherche. Elle ne porte pas sur ce à quoi j'adhère. Ce serait contradictoire. Elle porte sur ce qui me montre que ce à quoi j'adhère est raisonnable. Il est raisonnable de croire. Il est bon pour moi de croire. De crédibiliser. La crédibilité, c'est ça le point de vue. Credendum. Il faut que je croie. Donc ça ne porte pas directement, autrement il y aurait contradiction. Il y aurait en même temps adhésion et il y aurait en même temps suspens. Il y a adhésion et il y a en même temps un halo d'indétermination. Seconde objection, nous ne prenons pas ici l'acte de cogiter comme un acte de la faculté cogitative, mais comme un acte de l'intelligence, c'est bien évident. L'intelligence du croyant est déterminée à une chose, non par la raison, mais par la volonté. Et c'est pourquoi l'assentiment est pris ici pour un acte de l'intelligence en tant qu'elle est déterminée par la volonté impartie. Donc, je crois que vous pouvez arriver à saisir cette question complexe. Hein. Elle est complexe, mais en même temps, elle est simple. On regarde, en fonction de ce que dit saint Augustin, deux aspects dans la foi. On regarde l'aspect adhésion. J'allais presque dire l'aspect subjectif. J'adhère au mystère. Et puis l'aspect objectif. L'aspect de la relation de l'intelligence et de l'objet. Et je vois que l'intelligence par rapport de l'intelligence en tant qu'elle est déterminée par la volonté impartie. Donc, je crois que vous pouvez arriver à saisir cette question complexe. Hein. Elle est complexe, mais en même temps, elle est simple. On regarde, en fonction de ce que dit saint Augustin, deux aspects dans la foi. On regarde l'aspect adhésion. J'allais presque dire l'aspect subjectif. J'adhère au mystère. Et puis l'aspect objectif, l'aspect de la relation de l'intelligence et de l'objet. Et je vois que l'intelligence par rapport à l'objet, quand il s'agit de la foi, n'est pas déterminée. L'intelligence n'est pas totalement informée. Parce que le mystère échappe, il transcende, donc il n'échappe, il ne détermine pas. Quand je suis en face de quelque chose d'évident, mon intelligence est déterminée. Quand je suis en face de quelque chose qui n'est pas évident, mon intelligence n'est pas déterminée. Elle n'est pas informée. Oui. Donc ça, c'est l'aspect objectif. C'est l'intelligence face à l'objet. Tandis que l'intelligence face à la personne qui croit, c'est l'adhésion. L'adhésion se fait par la volonté. Et c'est parce que l'adhésion se fait par la volonté qu'il peut y avoir cogitation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir recherche. Vous voyez ça ? Pas de questions là-dessus ? Oui ?
Le lien avec la foi formée par la charité. C'est ça ? La foi formée par la charité.
Ah oui, mais la foi est même avant d'être formée par la charité. Hein. Même une foi informe implique une adhésion. La foi implique par elle-même une adhésion. Et alors c'est le concile d'Orange qui dit que le point de départ, l'initium fidei, c'est la pia affectio. C'est-à-dire, au fond, la volonté qui pousse mon intelligence à adhérer. Alors, cette volonté, cette pia affectio est d'ordre surnaturel. Donc, c'est déjà, si vous voulez, l'état embryonnaire, la charité. Mais c'est une charité qui n'est pas la charité à l'égard du sujet, c'est la charité, c'est l'amour de Dieu, uniquement pour adhérer à la vérité révélée.
Oui ? C'est pas la vertu, mais ce serait juste pour un
an.
Alors que la charité...
Oui, c'est une motion. C'est de l'ordre de la motion, c'est de l'ordre de l'oxygène. C'est l'ordre de la motion. C'est une motion, c'est pas un habitus. C'est pas un habitus. Pas d'autres questions ? On peut continuer. C'est intéressant, vous voyez, c'est pour au point du langage, c'est intéressant de voir les parentés entre ce que saint Thomas nous donne ici, science, foi. Voilà les deux extrêmes. Et puis, doute, soupçon, opinion. Alors évidemment, le soupçon prend une nuance tout à fait différente que dans la philosophie moderne. C'est tout à fait différent, le point de vue du soupçon. Ici, c'est le point de vue du doute. Donc, je doute parce que je regarde l'âme de Guridon. Je point de vue le soupçon. Je soupçonne. Ça m'oriente, mais je ne peux pas dire pleinement. une opinion quand on adhère. Alors, article 2, convient-il de faire des distinctions dans l'acte de foi en ceci qu'il y a croire à Dieu, croire Dieu et croire en Dieu. Alors ça, c'est du Saint-Augustin. C'est Saint-Amand au service de Saint-Augustin pour donner l'intelligibilité de Saint-Augustin. Alors, quand Saint-Augustin a-t-il écrit ça? A-t-il pensé à ça? Ça, c'est une autre question. N'est-ce pas? Mais c'est Saint-Amand qui nous donne une interprétation pieuse, merveilleuse, pieuse, intelligente. Hein, intelligente et pieuse, avec son respect pour Saint-Amand. Il semble qu'on aurait tort de faire par cela des distinctions. Première objection. Car à une habitude unique répond un état unique. Car à une habitude unique répond un acte unique. Mais la foi est bien une habitude unique. Il n'y a qu'une vertu de foi. Il est donc inadmissible de lui supposer plusieurs actes. Objection fameuse. Deuxième objection. Ce qui est commun à tous les actes de foi ne doit pas être admis comme un acte particulier de cette même foi. Or, croire à Dieu se retrouve communément dans tous les actes de la foi, puisque cette foi s'appuie sur la vérité première. Il ne convient donc pas, semble-t-il, de mettre en fait de croire à Dieu à part de certains autres actes de foi. Donc ça ne convient pas de distinguer tout acte de foi, c'est croire à Dieu. Troisième objection. Bien plus, ce qui se trouve même dans les choses, dans les infidèles, ne peut être classé acte de foi. Or, même les infidèles croient Dieu. Ils croient que Dieu existe. Croire Dieu ne doit donc pas être compté parmi les actes de la foi. Et ça, c'est sont tordues. En outre, le fait de se porter vers une fin appartient à la volonté. C'est elle qui a pour objet le bien et la fin. Mais croire n'est pas un acte de volonté, n'est pas un acte de la volonté. C'est un acte de l'intelligence. Dans le fait de croire en Dieu, qui implique un mouvement vers une fin, on ne doit donc pas voir une chose qui puisse nuire, qui puisse différencier l'acte de croire. Alors, Saint-Amand va reprendre, ça va aller vite. Cette distinction est de Saint-Augustin dans deux de ses livres, le livre des paroles du Seigneur et le commentaire sur Saint-Jean. L'acte d'une puissance ou d'une habitude dépend toujours de l'adaptation de la puissance et de l'habitude à son objet. L'objet de la foi, précisément, peut se présenter de trois façons. Croire, ainsi qu'on vient de le dire, appartient à l'intelligence, en tant qu'elle est portée par la volonté à donner son adhésion. Aussi, l'objet de foi peut se prendre soit du côté de l'intelligence elle-même, soit du côté de la volonté qui la pousse. Si on le prend du côté de l'intelligence, alors on peut voir dans l'objet de la foi deux choses, conformément à ce que nous avons dit plus haut. De ces deux choses, l'une est objet matériel de la foi. Et à ce point de vue, l'acte de foi consiste à croire Dieu. Puisque rien ne nous est proposé à croire, avons-nous dit, si ce n'est dans la mesure où cela appartient à Dieu. Ça a été déjà plus intéressant, l'objet matériel de la foi. On croit Dieu. L'autre est la raison formelle de l'objet. C'est comme le moyen à cause de quoi on adhère effectivement à telle et telle chose parmi les réalités à croire. Et c'est à cet égard, l'acte de foi consiste à croire à Dieu. Car, avons-nous dit, l'objet formel de la foi, c'est la vérité première. Et c'est à elle que l'on s'attache pour adhérer par elle à ce que l'on croit. Enfin, si on regarde l'objet de la foi de la troisième manière, en tant que l'intelligence est poussée par la volonté, alors c'est croire en Dieu, qui est l'acte de foi. Car la vérité première se réfère au vouloir en tant qu'elle s'offre comme une fin. Vous voyez, croire Dieu, croire à Dieu, croire en Dieu. C'est au fond l'analyse que saint Thomas fait à propos de l'intelligence par rapport à son objet. Et c'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt de cette chose-là. On va essayer de comprendre ça. Ça, c'est une donnée traditionnelle, donc ça, c'est une valeur. Ça n'a pas le droit de dire, ça m'est égal. Non, c'est une valeur. Il faut essayer de comprendre le rôle d'une intelligence face à l'objet. L'objet à croire. L'intelligence du croyant. L'intelligence du croyant adhère à l'objet révélé. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a une adhésion. Et il adhère en ce sens que l'objet connu, l'objet cru, encore mieux. Donc, il y a premièrement croire Dieu. Ça, c'est l'objet matériel auquel j'adhère. Je crois Dieu. L'objet de la foi, c'est Dieu. Nous l'avons vu. L'objet formel, l'objet matériel. La ratio formalis objecti et l'objet matériel. Et alors, nous les retrouvons ici. L'objet matériel, c'est croire à Dieu. Croire à Dieu, la raison formelle. Je crois par l'intermédiaire de la vérité première, en tant qu'elle est révélée. Et donc je crois à Dieu. Et en tant que l'intelligence est poussée par la volonté, donc le point de vue volontaire, que je regarde en second lieu, comment il y a ce fait qu'il faut adhérer. Donc la volonté qui prend l'autre, qui s'appuie sur l'autre, alors, et qui tend vers l'autre. Alors croire en Dieu, l'aspect dynamique, on croit en Dieu, c'est l'aspect de la volonté qui s'inscrit pour qu'on tende vers Dieu. C'est tendre vers Dieu. On croit en Dieu. On est pris dans le mouvement même de la foi. Tandis que les deux autres, vous voyez, croire Dieu, c'est l'aspect matériel. Croire à Dieu, c'est l'aspect formel. Croire en Dieu, c'est l'aspect volontaire. Les deux premiers font appel uniquement à l'analyse de l'objet, tandis que le troisième fait appel à quelque chose qui est extrinsèque à l'objet, au point de vue de la volonté. Ça, c'est une question de langage, mais une question qui va plus loin que le langage, vous voyez, puisque au fond, c'est la complexité même de l'acte de foi. Parce que vous ne pourriez pas dire ça pour un acte de connaissance philosophique. Vous ne pourriez pas dire ça. Vous comprenez bien. Définissez la métaphysique en disant croire à l'être, croire en l'être. Hein, à la place de Dieu, vous mettez l'être. Alors, qu'est-ce que vous diriez ? Connaître l'être. Connaître par l'être, ou connaître à l'être, et croire, et connaître en l'être. Vous ne pouvez pas dire ça. Pourquoi ? Oui.
Est-ce qu'on pourrait pas dire que Dieu, atteint par la métaphysique, est connu par le principe de causalité ?
Oui, oui. Alors, vous mettriez la métaphysique en quoi ici ? C'est l'analyse de l'objet de foi. Alors, maintenant, je vais essayer de comprendre par rapport à la métaphysique, à la philosophie première. La philosophie première, qu'est-ce que vous dites? Je découvre, je ne sais pas la foi. Hein. Tout ça, je crois que cette division est propre à la structure de la foi. La structure de la foi implique cette triple dimension. Alors que la connaissance philosophique n'en implique pas.
Par rapport à la vérité, quoi?
On ne croit pas. Oui, mais la voie du philosophique. Je pense la vérité. Je connais la vérité. Donc je veux dire, je découvre l'existence de Dieu. Et j'y adhère. Je découvre l'existence de Dieu, j'y adhère. Donc, c'est, je pense Dieu.
Il y a le plus formel, il y a le plus matériel.
Alors, vous diriez quoi, le plus formel?
Le plus formel, c'est le principe de causalité. C'est ce qui me donne la lumière pour découvrir.
Alors, vous diriez quoi?
Tout ce qui est dans le sens.
Non, je ne peux pas le dire. L'objet formel, c'est par l'acte. C'est par l'acte, mettre en acte, que j'adhère à Dieu. Alors je pourrais dire, je connais par l'acte Dieu. Et Dieu, je ne dis pas Dieu. C'est parce qu'il est très curieux ici. C'est que l'objet formel et l'objet matériel, nous l'avions vu à propos de la foi, à propos de la révélation, c'est que l'objet formel et l'objet matériel peuvent être les mêmes. Tandis qu'en métaphysique, non. L'objet formel et l'objet matériel sont pas les mêmes. Et puis troisièmement, vous n'avez pas aussi le fait de « in »,« en ». Oui, parce que c'est le point de vue de la volonté qui me fait regarder Dieu comme mon bien. Vous voyez, alors les trois sont liés. L'objet formel, l'objet matériel et le point de vue de la finalité. Tandis qu'au contraire, dans l'ordre de la connaissance, non. Je serais obligé de distinguer l'objet matériel, l'objet formel, ce n'est pas les mêmes, et puis le point de vue de la fin. Donc c'est une structure qui, c'est ça qui est très curieux, c'est ça qui est intéressant dans la chose de saint Thomas, c'est qu'une structure, saint Thomas reprend ça constamment, il l'a repris plusieurs fois dans sa vie, et dans son commentaire sur saint Jean, il le reprend, pour bien montrer que c'est une structure qui est propre à l'acte de foi. L'acte de foi implique ces trois aspects. Croire Dieu, croire à Dieu, croire en Dieu. Et je vois les trois aspects différents. Qu'est-ce qu'il y a ?
Pour l'acte de foi humaine, est-ce pas la même structure ?
Je crois à toi. Je crois à toi. Croire en une personne, c'est mon bien. Je crois à cette personne, je crois à cette personne. Vous voyez ? Réfléchissez.